On en parle depuis plusieurs années. Il y a plusieurs locataires mécontents du service Airbnb. Bon, on a beaucoup parlé des parties, des condos qui ressemblent plus à des hôtels. Finalement, perte d'intimité pour les locataires, des déchets également qui ne sont pas ramassés. Là, je pourrais continuer encore. La liste peut être assez longue. Il y a quand même des bienfaits pour plusieurs. Donc, il y a vraiment deux côtés de la médaille. Mais pour aider au bon voisinage, on se pose la question, est-ce qu'on devrait réglementer davantage Airbnb? Il y a quand même une réglementation. Mais est-ce qu'on devrait être plus sévère? Est-ce qu'on devrait donner des amendes? Je sais que le gouvernement Legault penche justement sur un projet de loi pour donner peut-être plus de tapes sur les doigts d'ailleurs aux récalcitrants. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que c'est la solution? 514-790-9850. 514-790-9850. J'ai envie de vous entendre là-dessus. Soit vous êtes locataire Airbnb, vous avez un Airbnb ou vous avez eu de mauvaises expériences. Avec nous en studio, Marjolaine Deneau, porte-parole du regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec. Bonjour Marjolaine, merci d'être là.
Bonjour.
Guillaume Lavoie, chargé de cours à l'ENAP. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
C'est une plateforme de location Airbnb qui a été lancée il y a quoi, une dizaine d'années maintenant. Ça a été vite, très populaire partout à travers le monde. À Montréal, est-ce qu'on aurait pu faire les choses autrement? C'est-à-dire, est-ce que là, maintenant, on est comme un peu pris par tout ce qui s'est fait et on est en retard, finalement, contrairement à ce qui peut se passer en Europe?
On est en retard peut-être se déculpabiliser un peu, là. C'est correct, c'est plutôt normal qu'il y ait un retard, hein, parce que dans l'histoire du monde, c'est jamais arrivé que la loi arrive avant l'affaire qui est supposée réglementer. Maintenant, la question, c'est si c'est normal qu'on soit en retard, est-ce que c'est normal qu'on soit aussi en retard? Là, la réponse, c'est non. Alors, on a une nouvelle pratique, il y a des avantages très importants, il y a aussi des inconvénients majeurs et même des choses périlleuses. Et à toute pratique, elle ne se vit bien que s'il y a un bon règlement autour. J'entendais la question, est-ce qu'il faut être plus sévère? J'ai envie de dire oui sur certaines choses, non sur certaines autres. C'est pas tant, la question est plus, est-ce que ça prend un règlement pour ça? C'est quel est le meilleur règlement qu'il faut mettre en place et à quel niveau est-ce qu'il faut le mettre en place? Parce qu'un bon règlement, c'est un règlement qu'on est capable d'appliquer. Et il y a plusieurs enjeux, équité fiscale, les nuisances, mais le plus périlleux, le plus grave, le plus dangereux, c'est ce qu'on appelle la prédation sur le parc d'habitation, ou la prédation potentielle. C'est-à-dire, si je loue mon chez-moi, j'enlève pas de logement à personne. Si j'achète le duplex en face puis que je mets les deux locataires dehors pour en faire deux unités de location court terme, je viens d'enlever deux unités de location dans la vie, deux unités d'habitation. Si 1000 personnes font ça, c'est 2000 logements de moins. Alors, c'est ça qui est le plus grave. Alors, la question, c'est comment on dessine, comment on invente une réglementation pour régler d'abord le problème le plus important.
Et Marjolaine Deneau, ça, c'est un problème marquant, la perte de logement, parce que déjà qu'à Montréal, et on le dit à chaque année, il y a des logements qui sont très difficiles à trouver, des logements surtout à faible coût. Puis il y a des gens, on parlait de finances tout à l'heure, puis il y en a qui n'ont pas nécessairement les moyens d'avoir des condos à 1 400 $ par mois. Là, puis je vous dirais que c'est pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup qui ont ça à Montréal. Mais il reste que ça, c'est une grande problématique pour vous. Là.
Là-dessus, on est parfaitement d'accord. Là. Le plus gros problème avec Airbnb, c'est ce que ça cause aux les problèmes que ça cause au stock de logements locatifs privés. Surtout actuellement, là, on est dans une crise du logement. On l'a vu au 1er juillet, il y a encore des familles là, qui sont à la recherche d'un logement à Montréal. Puis, quand on compare les taux d'inoccupation, puis le nombre de logements complets qui sont retirés du marché locatif privé pour être mis en location sur Airbnb, bien, on voit que les pourcentages sont semblables. Donc, s'il n'y avait pas d'Airbnb actuellement, parce que bon, notre regroupement défend l'interdiction pure et simple de la plateforme, on n'aurait pas en fait le problème qu'on a vécu actuellement. Là. Je crois aussi qu'il y a une étude de l'IRIS là, qui a appuyé ça là, de Philippe Hurtault qui a fait beaucoup jaser dans les dernières semaines, qui disait justement si on interdit Airbnb, on n'aurait plus ce problème-là là, de manque de logement. Donc vraiment.
Mais est-ce que l'interdiction est valable, c'est-à-dire qu'on peut pas être contre le changement, on peut pas être contre les avancées non plus. C'est une nouvelle façon de se loger. Il y avait le couchsurfing à un moment donné, là, on pouvait aller dormir sur le sofa d'une personne. Là, ça a peut-être dégénéré, mais de l'interdire totalement, c'est pas... peut-être pas trop comme mesure.
C'est sûr que c'est une position de principe qui est forte, là, on s'entend là-dessus. Disons qu'aussi que toute mesure coercitive là, qui serait vraiment, qui viendrait réglementer fortement la plateforme, on serait d'accord. Là. Donc, on parlait avant l'émission, là, justement.
On a réglé ça tantôt.
On parlait de limiter ça à la résidence principale. Déjà, là, on aurait vraiment trouvé une mesure intéressante, là, même de notre côté.
Si on fait le tour de la planète, d'abord, au Canada, là, si on faisait notre classement des meilleurs élèves puis des moins bons, dans les villes, le meilleur de la classe, là, c'est Vancouver. Dans les moins bons, il y a Montréal. Parce qu'à la fin, un bon règlement, c'est un règlement que je suis capable d'appliquer. En l'interdiction, le gros problème, c'est que ça ne marche pas. Aussi, je peux bien me faire tous les règlements que je veux sur les quotas, etc. Si je ne suis pas capable de le mettre en œuvre, ben ça, j'appelle ça du « feel-good policy ». On s'est fait plaisir, mais on n'a pas réussi à le mettre en œuvre. La règle de base, parce que notre objectif premier, c'est d'empêcher que quelqu'un enlève des unités d'habitation à d'autres. La règle de base, c'est ce que j'appelle, puis c'est la recommandation du rapport que j'ai donné au gouvernement Legault, au gouvernement du Québec, maintenant le gouvernement Legault, et ils vont probablement, c'est probablement ça qui va animer la réglementation qui s'en vient. La règle de base, c'est le test de la brosse à dents. Est-ce que c'est là où votre brosse à dents est d'habitude?
Ça, j'aime ça.
Si c'est oui, préjugé favorable. Ouais. Si c'est non, préjugé très, très, très défavorable. Alors, imaginons, puis je pense que c'est vers ça qu'on se dirige. Vous allez sur Internet, vous ouvrez la page, par exemple, du gouvernement du Québec, et là, vous avez deux fenêtres. Est-ce que c'est là où vous habitez d'habitude? Vous cliquez, entre 5 et 10 minutes, vous payez 50 $ vous avez un numéro d'identifiant unique, et là, vous pouvez le faire. Si ce n'est pas là où vous habitez d'habitude, il y a un formulaire, allez chercher l'autorisation de la ville. Il y a des grosses chances que la réponse soit non. Et après ça, on vous permettra de le faire, puis peut-être que vous paierez des taxes commerciales et autres. Ça va ramener les choses à l'essence même de comment on voudrait que ça se passe. Et je pense que ça va amener, pour les gens qui en font, qui l'utilisent, par exemple, il y a des Québécois qui l'utilisent à Montréal et ailleurs, là.
Parce que c'est quand même moins cher aussi que nous.
Oui, c'est surtout différent, c'est génial pour les familles. Mais prenons, là, on est à Montréal, mais imaginons qu'on est à Kamouraska, ou des petites localités qui n'ont pas la capacité d'accueil. Alors, ça fait que le festival important, ils ne peuvent pas l'avoir, ou ils sont limités dans leur capacité d'accueil touristique. Ça peut transformer la vie de communauté, mais on veut s'assurer que ça n'enlèvera pas de logement à personne. Cette règle-là, elle s'applique bien, elle s'applique facilement. Et le test, c'est, vous savez, en finance, on dit trop d'impôts, tue l'impôt. Si vous triplez l'impôt, le nombre de fraudeurs augmente pas mal. Mais en administration publique, on dit trop de formulaires, tue le formulaire. Il faut que l'enregistrement soit en ligne, que ça prenne, entre, imaginez ça, 5 à 10 minutes. Et si jamais vous n'avez pas déclaré les bonnes informations, bien c'est comme dans votre rapport d'impôt. Vous savez, quand on fait notre rapport d'impôt, la vérification, elle est après. Mais là, vous signez, comme quoi vous exposez à des amendes très sévères et même il y a tout un registre de code pénal. Alors ça, c'est la bonne manière de procéder.
Mais des amendes très sévères, puis... Je sais que c'est très difficile d'aller chercher les personnes. Puis là, on parlait la semaine dernière d'un arnaqueur qui avait acheté des condos et que finalement, c'est une entreprise d'Airbnb ou qui est en location. Puis finalement, il ne payait pas son loyer. Là. C'est une histoire un peu qu'on ne voit pas si souvent, là, honnêtement, mais quand même, qui a fait les manchettes. Mais il reste une chose, c'est comment moi, je vais être capable de découvrir que la personne qui est là, qui habituellement est censée habiter, c'est son adresse, mais qu'elle fait du Airbnb plus souvent qu'autrement.
Mais là, vous posez la question.
Parce que souvent, il y a des gens qui vont rester aussi à la maison, mais ça va être un marché. Là. Ça, je l'ai vu aussi. Là.
Mais ça, vous posez la bonne question, parce qu'à la fin, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir l'appliquer? Puis là, justement, c'est en mettant des cas, est-ce que je vais pouvoir contrôler si quelqu'un le fait? Est-ce que c'est vraiment sa résidence principale?
On va cogner à la porte, il va y avoir des contrôleurs. Je pense qu'on parlait de 25.
Ben, il y a mieux que ça. Là. Et c'est là où on voit que la bonne solution ne passe pas par les villes là-dessus, parce que les villes n'ont pas les outils pour savoir si c'est votre résidence principale. Ça n'existe pas au municipal, ça. Ça n'existe qu'au niveau du gouvernement du Québec. Alors, Revenu Québec, vous ne pouvez pas avoir d'abord, soyons clairs, vous ne pouvez pas avoir deux résidences principales. Vous pouvez juste en avoir une. Et la manière dont on le fait, c'est lorsque vous vous enregistrez en ligne, là, puis on va vous donner un numéro d'identifiant unique. Vous n'en avez qu'un seul. Et la règle, c'est que le numéro doit apparaître à côté de votre annonce, peu importe le support. Parce que ça, c'est l'autre enjeu. Oui, il y a Airbnb, mais il y en a 10, 12, 15 des plateformes en ligne comme ça. Il y a même des plateformes qu'on en dirait non transactionnelles, Kijiji, Facebook Marketplace, où là, vous n'êtes pas en train de... Alors, comment je vais les contrôler? Alors, si le numéro n'apparaît pas à côté de l'annonce, en soi, c'est une infraction. Beaucoup plus facile à vérifier. Mmh. Vous n'avez pas besoin de vous promener à grandeur du Québec. Là, vous pouvez faire ça en ligne.
Le seul problème avec ça, oui, définitivement. On le voit quand même comme un pas dans la bonne direction. Mm-hmm. La seule chose, c'est que Revenu Québec a déjà actuellement des inspecteurs puis les pouvoirs d'intervenir, puis on n'a vu aucune infraction, en fait. Donc, il y avait un récent article au mois d'avril qui avait paru de Radio-Canada qui par la suite d'une demande d'accès à l'information, qui avait essayé de voir est-ce qu'il y avait eu des infractions. Il y avait eu beaucoup d'avertissements, beaucoup de sensibilisation, mais est-ce qu'il y a vraiment une volonté d'imposer des amendes puis de punir les récalcitrants? C'est là aussi qu'on est pas mal inquiet.
Parce que c'est une gestion aussi quand même. C'est-à-dire que si on engage des inspecteurs supplémentaires, c'est des frais supplémentaires aussi, des salaires à payer. Il y a de la bureaucratie aussi là-dedans. Donc, c'est tout ça.
Il faut que ce soit simple et efficace. Et là, on peut pas... Ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, là, c'est intéressant, mais c'est inadéquat ou inefficace. ce qu'on parlait tout à l'heure de l'enregistrement en ligne du numéro d'identifiant unique, là, il y a un règlement qui a été annoncé, qui est à l'étude. Ça va exiger une modification dans les lois. Donc, ça, c'est à l'automne. Fait que le vrai test va être à partir de l'hiver prochain. Là, parce que, bon, il faut faire ça. On aurait dû faire ça il y a 5 ans. On ne l'a pas fait. Alors, d'avoir fait la mauvaise chose hier, c'est pas une excuse de faire la bonne chose aujourd'hui. Mais là, on accepte qu'on est en retard.
Oui. Et on va prendre les appels d'ailleurs du public au 514-790-9850, 514-790-9850. On parle de Airbnb et de toutes les autres plateformes de location. Là, c'est souvent celle qui est pointée du doigt, c'est la plus populaire, c'est celle qui peut-être fait réagir le plus de gens. Moi, j'ai envie de vous entendre. Est-ce que vous avez un Airbnb à la maison? Est-ce que vous l'avez déjà utilisé? Avez-vous de mauvaises expériences? Et qu'est-ce qu'on devrait faire justement pour qu'on s'entende comme tout, de très bons voisins. Tu sais, ça serait peut-être intéressant. 514-790-9850. 10h48, on prend vos appels concernant Airbnb. Est-ce qu'on devrait réglementer encore plus et de quelle façon? On est avec Marjolaine Deneau, qui est porte-parole du regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec, et Guillaume Lavoie, chargé de cours à l'ENAP. Au bout du fil, on est avec Guillaume. Bonjour. Non, David. Bonjour.
Oui, bonjour. Mais premièrement, moi, je dois dire que j'adore Airbnb quand je voyage. C'est une des seules façons que j'utilise pour se sentir un peu comme les locaux. Et je les déteste en même temps parce que le triplex à côté de chez moi a été entièrement converti en Airbnb. Il faut dire que dans le plateau, un logement sur 5 a été pratiquement enlevé dans les dernières années pour être converti en Airbnb. Et c'est l'enfer. C'est l'enfer parce que même si c'est pas la fête tous les soirs, c'est des gens qui passent sur le balcon, sur les terrasses à 2-3 heures du matin quand ils reviennent. Et je déteste. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est pas la réglementation le problème. C'est que la réglementation, il y en a. Il y a des permis qui sont livrés par la CTQ, qui ensuite la ville délivre les permis, je crois. Et par la suite, c'est la police qui est supposée s'occuper de régler les problèmes et ensuite Revenu Québec pour s'occuper des fautifs. Et tout ça, tous ces quatre organismes-là, il n'y a personne qui fait rien. Quand on a des plaintes, on appelle la CTQ qui va nous dire d'appeler la ville, c'est eux autres qui réglementent ça. La ville va nous dire d'appeler la police quand il y a du bruit. On appelle la police qui nous conseille d'appeler Revenu Québec. Il faut dire Revenu Québec, je pense qu'il y a 2 ou 3 inspecteurs pour tout le territoire montréalais. Donc, il y a plein d'Airbnb fautifs. Il y en a trop. Donc, il y a toujours des bruits à gauche ou à droite de votre d'où vous habitez. Et malgré les règlements, il n'y a rien qui se fait.
Mais David, est-ce que vous avez essayé de parler à la personne qui louait?
Ah, mon Dieu, oui. Ouais. Au début, il était très gentil. Je l'aimais bien. OK, on va régler le bruit, etc. Mais vous savez, vous avez un triplex de 4-5 chambres à coucher. C'est des gens qui viennent ici pour faire la fête, qui sont au centre. Et souvent, comme je dis, c'est pas la fête, mais quand ils rentrent à 2-3 heures après au resto, au bar, ils vont prendre un verre, parler sur la terrasse. Et après 10 ou 15 fois que tu avertis ton voisin, ben là, il ne te parle plus ou ne t'écoute plus. Lui, il a une business à faire rouler et donc il essaie de le faire rouler avec le moins d'embûches possible. Et il va pas arrêter de louer ses logements à cause de certains voisins récalcitrants. On a appelé Revenu Québec plusieurs fois et il est affiché. Il est posé que c'est pas juste Airbnb, donc c'est location court terme. Donc c'est TripAdvisors, Booking.com et autres. Donc, quand on dit Airbnb, ça englobe tout ça.
Mais c'est pratiquement rendu un hôtel à côté de chez vous, finalement?
Ben, c'est rendu un hôtel. J'ai des voitures qui vont sur le trottoir pour débarquer des valises. c'est épouvantable. Donc, vous avez des preuves. Vous avez sur le site, vous avez les 3 logements qu'il loue. Vous avez donc, c'est un Airbnb, location court terme, illégal, car il n'a pas de permis. Vous avez tout en main pour dire à Revenu Québec ou la police ou la ville d'intervenir et personne ne fait rien. C'est ça qui est frustrant. Quelqu'un brûle un stop, tout de suite, un ticket, c'est fait, la réglementation est là, on l'applique. Quelqu'un opère un boutique hôtel dans une zone résidentielle et malheureusement, personne n'intervient malgré les plaintes et les preuves.
Ouais. Mais pourquoi il y a autant de laxisme? C'est la question que je me pose aussi parce que surtout qu'on parlait tout à l'heure que si on voulait que ça se passe bien, c'est justement par Revenu Québec aussi. Puis là, il n'y a personne qui semble vouloir s'occuper du dossier. David, ce que vous me dites, je l'ai aussi parcouru de plusieurs personnes aussi, là.
Ben moi, je pense que les autorités sont souvent dépassées par tout ce qui est nouvelle technologie. On l'a vu avec Netflix qui a réussi à ne pas payer de taxes pour un certain arrangement. On le voit avec Amazon qui livre des biens au Québec sans faire payer les taxes. Donc, toutes les plateformes technologiques, je trouve que les autorités sont dépassées. Et Airbnb, c'est une croissance excessivement rapide, mais il y a d'autres villes qui se sont mieux ajustées. Amsterdam, par exemple, c'est on peut pas louer plus que 6 semaines son logement. Je trouve que c'est des belles choses à faire. Donc,
oui, les endroits, c'est même 30 jours aussi, le maximum.
Oui. Exactement. Et alors qu'on a toutes les preuves pour donner des contraventions qui peuvent aller, je pense que c'est entre 1 000 et 25 000 $ pour des récalcitrants, alors qu'on a toutes les preuves, c'est sur papier, c'est là, il n'y a rien qui est fait. Et c'est ça qui m'agace beaucoup. Et pour vivre à côté d'un Airbnb ou de location court terme, et c'est beaucoup plus que le bruit. C'est à chaque fois qu'on voit 10 personnes rentrer dans un logement, le stress commence déjà à monter. Est-ce que je vais être obligé de sortir à 2 heures du matin pour leur dire d'arrêter de faire du bruit? Est-ce que je vais fermer mes fenêtres tout de suite? Il fait chaud. Je ne veux pas être réveillé à 2-3 heures
du
matin.
Non, puis on ne sait jamais qui est chez nous aussi. Parce que quand tu habites dans un immeuble locatif, un immeuble même à condo, de toute façon, tu dis, bon, je veux connaître mes voisins. À un moment, on finit par se parler, tout ça. Mais quand il y a 10-15 personnes qui arrivent à chaque semaine comme ça, ça peut causer problème. Marjolaine, vous écoutez le récit de David. C'est ce que certains de vous disent également à l'association.
C'est exactement un cas typique. Puis le plateau Mont-Royal, c'est le quartier où il y en a le plus. Ça démontre vraiment le problème aussi quand Airbnb devient un commerce. C'est ça le problème. C'est quand on en fait une utilisation commerciale puis qu'on retire ces logements-là du parc privé pour en faire une utilisation commerciale, qu'on ne connaît plus ses voisins. Là, on ne parle pas de, c'est comme Airbnb nous dit, d'une petite famille qui utilise ses services pour arrondir ses fins de mois. Là, on parle vraiment d'un commerce. Comme vous l'avez dit aussi, on transforme des logements privés en hôtels. On perd la vie de proximité. On connaît pas ses voisins. On sait pas si on va se faire voler. Et qui plus est, c'est qu'en fait, un propriétaire qui veut transformer son triplex comme ça actuellement, il peut faire une demande à la régie du logement pour un changement d'affectation de son triplex. Et il peut mettre les locataires actuels dehors. Et on a des cas où ça a été accordé. Donc, même si c'est illégal, comme monsieur le mentionne, il y a quand même d'autres législations qui permettent de faire ça, en fait, pour les propriétaires. Donc, on est vraiment... Oui.
Mais d'abord, j'ai beaucoup de sympathie pour David qui vient de nous appeler. Pour moi, c'est la preuve que la réglementation que l'on a est inefficace.
Ça ne fonctionne pas pantoute.
Parce qu'entre autres, elle a été écrite par des gens qui ne comprenaient pas bien. Hein? C'est très dur de réglementer quelque chose qu'on comprend mal. Première chose. Deuxième chose, puis il l'a mentionné, c'est pas juste Airbnb, c'est les autres plateformes aussi. Alors, si, je ne peux pas faire un règlement. Imaginez, par exemple, je vais réglementer l'automobile, je fais un règlement sur les Ford. Mais qu'est-ce qui arrive avec les Chrysler et les Nissan? Ce qui m'intéresse, c'est comment je gère tout ça. Alors, une règle qui est écrite pour une compagnie ne règle pas le problème. L'approche, c'est encadrer afin de mieux permettre. Puis, il y a trois affaires là-dedans. Je ne peux pas encadrer ce que je ne suis pas prêt à permettre. Je ne devrais pas permettre ce que je ne suis pas capable d'encadrer. Puis, afin de mieux, c'est pour essayer de maximiser les avantages puis diminuer les inconvénients les plus importants, parmi eux, protection du logement, réduction des nuisances. Regardez bien, pas pour juste dire que c'est le seul bon rapport, mais j'ai fait le rapport pour le gouvernement du Québec. Tapez dans Google, je pense que si vous tapez les mots « comprendre »,« encadrer »,« accompagner », et vous allez voir là exactement comment on fait pour dessiner une réglementation qui fonctionne. Vous ne pouvez pas aller chez le tailleur, vous dites-moi, faites-moi un avis qui me fait parfaitement, mais mesurez-moi pas. On ne peut pas bien réglementer ce qu'on comprend mal. C'est ça qu'on a fait.
Et chose certaine, ça va rester, hein, qu'on le veuille ou non, qu'on aime ou non, mais je pense qu'il faut effectivement mieux le réglementer pour que tout le monde, on s'entende bien. On peut dire ça pour cette finale de Airbnb et des autres plateformes. À un moment donné, on va dire les autres plateformes de location de logement. Là. Je pense qu'on pourrait peut-être plus l'appeler comme ça. Merci beaucoup, Marjolaine Deneau, d'avoir été avec nous, porte-parole du regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec, et Guillaume Lavoie, chargé de cours à l'ENAP. Bonjour, merci d'avoir été là.
Au plaisir.
Merci. En studio avec nous, Dan Bigras, salut.
Comment tu vas?
Hey, ça va super bien, tu passes un beau week-end?
Oui, j'ai passé un beau week-end. Moi, je travaille parce que mes affaires de musique existaient avant que je prenne la job.
C'est vrai, on l'a oublié, ça.
Non, mais ils m'ont appelé un petit peu à dernière minute. Ben, c'est pas dernière minute, mais je veux dire, mes shows, ils se bookent 2 ans à l'avance,
ben
souvent.
Oui.
Là, fait que... Alors, je suis en train de gérer les autres. Mais ça faisait du bien de retrouver la musique. Puis là, ça faisait du bien de la lâcher aujourd'hui puis de revenir... Écoute, moi, je me sens comme un étudiant. J'ai un petit job d'été. J'adore ça.
C'est bien, ça. Une petite paye d'été. On en a parlé dans les médias avec ce qui arrive présentement avec les réseaux sociaux, le Twitter, les gestionnaires de communautés qu'on appelle. On l'a vu avec Hydro-Québec où on répliquait de plus en plus avec la SAC aussi. Et là, c'est le cas de la Sûreté du Québec qui a quand même été critiquée parce qu'on va dire l'idée n'était pas bête, mais là, de répliquer
mais
à certains commentaires...
C'est parce qu'il y en a un qui a écrit à la Sûreté en disant « Check le zinzin sur le radar ». Puis eux autres, la Sûreté a répondu « Check le moron qui se prend pour Gilles Villeneuve ». Je trouve ça un peu pissant, mais c'est certain qu'il faut faire attention à l'escalade sur les réseaux sociaux. C'est délicat. Moi, je vais parler à du monde qui sont complètement contre. Je suis plutôt pour, moi. Mais on va écouter les points de vue de tout le monde. Écoute, Hydro-Québec, c'était fantastique. Il y en a un qui avait écrit et à Hydro-Québec sur les médias sociaux. Puis là, je le lis comme il le
dit.
Oui,
hein. Vas-y.
Le fret s'en vient. Hydro-Québec vont bientôt nous donner leur conseil pour économiser l'électricité. Comme se masturber ailleurs que dans la douche. Hydro a répondu, si vous voulez économiser l'électricité, vous pouvez quand même le faire dans la douche, mais à l'eau frette. Voilà. Ça, je suis pour.
Ben, quand on utilise au moins l'humour là, sur les réseaux sociaux.
Ça fait du bien, ces frettes, ces entités-là. Fait qu'à un moment donné, je trouve qu'ils se comportent de façon humaine. Ça me fait plaisir, moi.
Ben, Dan, on t'écoute à midi sans faute.
Bien,
merci, à tantôt. Au retour, les informations que j'écoute.